Sandra Viscardi.
La population est partagée face aux mesures d'économie du Conseil fédéral. Le gouvernement souhaite résorber les déficits budgétaires en coupant surtout dans les dépenses. Selon un sondage Sotomo publié hier, 48% des personnes interrogées rejettent cette solution, mais 45% la partagent, ce qui est positif pour le conseiller national UDC vaudois Yvan Pahut. La population suit dans les grandes lignes la vision financière de la Confédération.
La volonté du Parlement, la majorité, elle est avant de taxer, on privilégie les économies. Et ça, c'est une approche de centre-droite qui est assumée finalement par le Parlement. Et ce sondage, il conforte ce système-là en disant qu'on doit privilégier en priorité les économies et si on n'y arrive pas, peut-être envisager de nouvelles recettes. Là, on n'y va pas par pas. On fait en premier les économies et si ça ne suffit pas, ben on pourra éventuellement envisager des recettes. Mais on ne veut pas arriver directement avec une solution qui envisage des recettes.
Yvan Pahut avec Phileas Autier. Comme leurs homologues français depuis lundi, nos paysans suisses pourraient bien rallumer leur colère ces prochaines semaines. Le mouvement Révolte Agricole Suisse prévoit de se rassembler à Berne le 3 décembre prochain pour montrer à l'Office fédéral de l'agriculture que les revendications du milieu paysan n'ont pas changé. Il est devenu au fil des ans l'ennemi numéro un du Parti communiste chinois. Jimmy Lai est jugé en ce moment même à Hong Kong. Le milliardaire est notamment accusé de collusion avec l'étranger dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale imposé par Pékin en 2020 pour mettre fin à la contestation populaire. À la barre, le patron de l'Apple Daily a déclaré tout à l'heure que son journal avait incarné les valeurs fondamentales du peuple de Hong Kong et voulu apporter la liberté. Notre correspondant en Chine, Michael Pecard, nous brosse le portrait de ce magnat de la presse.
Un traître aux yeux de Pékin, Jimmy Lai, né dans le sud de la Chine, à Canton, en 1947, dans une famille aisée. Il a 2 ans lorsque les troupes communistes de Mao Tse-tung prennent le pouvoir. Son père fuit alors à Hong Kong, sa mère est envoyée en camp de travail. Enfant, il multiplie les petits boulots avant de franchir le rideau de bambou caché dans les cordages d'un navire. À 12 ans, Jimmy Lai pose le pied pour la première fois à Hong Kong. Il travaille dans des usines textiles, prend du galon, bâtit l'empire de prêt-à-porter Giordano. Parallèlement à ce succès, il s'engage en faveur de la démocratie. Très marqué par le massacre de Tiananmen en 89, il investit dans des titres de presse pour promouvoir la liberté d'expression et d'information. Il finance aussi le mouvement pro-démocratie hongkongais. Dans le sillage des manifestations massives de 2019 contre l'emprise croissante de la Chine sur le territoire, Pékin impose sa loi sur la sécurité nationale, arrête Jimmy Lai, l'accuse d'avoir financé une révolte instigée par les États-Unis. Lui tient tête, il devrait utiliser son procès comme plateforme pour la cause démocratique. Malgré les risques, il encourt la prison à perpétuité.
La police fédérale brésilienne a arrêté hier un policier et 4 militaires soupçonnés d'avoir comploté un coup d'État en décembre 2022. Ils ont discuté d'assassiner le président Lula, son vice-président, le président de l'époque du tribunal supérieur électoral. En fait, ils voulaient empêcher l'investiture de Lula au mois de janvier 2023. L'idée d'une aide publique aux aciéries suisses en grande difficulté commence à germer au Parlement. La commission de l'environnement du Conseil national a voté pour un soutien en réduisant durant 4 ans les importants coûts énergétiques qui contribuent à plomber la branche sidérurgique. La proposition vient du socialiste vaudois Roger Nordmann. Elle séduit même l'UDC. Le fribourgeois Nicolas Colli est membre de cette même commission. Il expliquait hier soir à Forum comment un soutien public peut avoir du sens pour son parti.
Là, la commission compétente en la matière d'énergie a trouvé un compromis qui est un compromis acceptable. Bien sûr, nous ne remettons pas en question la nécessité d'avoir une économie très libérale, mais nous prenons également nos responsabilités lorsque l'économie concernée est d'intérêt national. Là, il y avait clairement un intérêt stratégique de maintenir ces industries en Suisse. Et je crois que c'est un peu dans l'ADN de l'UDC de soutenir notre pays, de soutenir notre souveraineté et de par là soutenir également notre économie.
Et l'UDC prendra formellement position sur cette question lors de sa séance de groupe. Ce sera vendredi prochain. À la gare de Lausanne, les palissades de chantier sont de retour. Les travaux du sous-sol vont démarrer en mars prochain, d'après les CFF. La ville, elle, a présenté hier le futur village de la place de la gare. Une fois le sous-sol fini en 2036, s'il n'y a pas de nouveau retard, eh bien le parvis aura fait peau neuve. Et cette vaste esplanade parsemée d'arbres sera dédiée à 75% aux piétons et aux deux roues, avec notamment une vélostation de 750 places en sous-sol. Les arrêts de bus seront aussi de retour sur cette place qui se veut fluide. Romain Latapi, chef de projet de l'unité Pôle Gare.
Oui, plus de passage piéton, donc traversée libre, qui permet une bonne perméabilité et une priorisation
plutôt un sens qui permet aux piétons de se sentir à l'aise dans ce secteur.
Finalement, si on veut déposer quelqu'un à la gare avec sa grosse valise, on va aller où ? Il n'y a plus de dépose minute sur la place de la gare ?
Alors, il n'y a plus de dépose minute sur la place. Par contre, il y a deux parkings en ouvrage, ou plutôt souterrains, dans le secteur proche. Donc, le parking des Épinettes qui est en cours de construction et le secteur de la Razude. Et puis, ces parkings souterrains seront connectés directement au sous-sol de la place de la gare via différents passages inférieurs.
Romain Latapie avec Céline Tso, la mise à l'enquête publique de cette place de la gare, c'est jusqu'au 19 décembre. Raphaël Nadal et le tennis, c'est fini. L'homme aux 22 titres de Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros, a joué son dernier match hier avec l'équipe d'Espagne, battue en quart de finale de la Coupe Davis par les Pays-Bas. Une défaite pour le taureau de Manacor, très ému au moment de tirer sa révérence. Très changeant, le temps aujourd'hui en pleine, n'attendez pas plus de 8 degrés au thermomètre. Il y aura un peu de neige en moyenne montagne. Demain sera très nuageux avec des précipitations demain après-midi et un risque de neige en pleine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, célébrons la musique classique. La Schubertiade RTS Espace 2 essaimera ses plus belles notes à Sion les 6 et 7 septembre 2025. Une centaine de concerts et divers registres musicaux pour un public passionné de musique. Vous êtes soliste, membre d'un ensemble instrumental ou d'un chœur et souhaitez participer à l'affiche de cette 22e édition ? Les candidatures sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 1er décembre sur le site schubertiade.ch.
Musique Matin, Yves Bron.
On commence la rubrique des nouveautés avec un caprice, comme on le fait depuis le début de la semaine. Estelle Reva, la violoncelliste, qui vient d'enregistrer Les Caprices, donc pour violoncelle seule, de Joseph-Marie Clément d'Al-Abaco. Le disque vient de paraître chez Solo Musica. Thank you. Caprice pour violoncelle seule, composée par Dal Abaco et interprétée, enregistrée récemment par Estelle Reva. Extrait de son dernier disque qui vient de paraître chez Solo Musica. On était donc dans le répertoire de la musique baroque. On va y rester et même aller un peu plus en arrière dans l'histoire de la musique avec une composition de Robert Jones, l'anglais, qui a été actif, on va dire, tout au début du XVIIe siècle, compositeur pour le luth en bonne partie. Et certaines de ses musiques et d'autres sont au programme de ce disque Dreamers and Imaginations, un disque qu'on doit à la chanteuse Anne-Lena Elbert, avec également avec elle Evangelina Mascardi, Angélique Moyon et Frédéric Herumann. On va tous les écouter dans la première plage du disque, puisque c'est un air pour voix et basse continue. On écoute donc cette musique de Robert Jones, Love Winged My Hopes.
Far from this earth, but not.
la voix de Anne-Lena Elbert, avec elle une basse continue, donc plusieurs musiciens, Evangelina Mascardi, Angélique Moyon et Frédéric Heumann, musique de Robert Jones, donc compositeur du premier baroque anglais, avec ce Love Winged My Hopes, extrait d'un disque donc consacré à ce genre de répertoire, on va dire, avec plusieurs compositeurs au programme. Ça s'appelle Dreamers and Imaginations. Encore une nouveauté au niveau de l'édition et de la production du disque, mais pas de l'enregistrement. C'est le Festival de Lucerne qui propose ponctuellement justement des enregistrements. Et ici, on retourne dans les années 80 au Festival de Lucerne, bien entendu avec l'invitation du grand Václav Neumann qu'on écoute ici avec l'Orchestre Philharmonique Tchèque, répertoire consacré à Dvorak. On a écouté lundi, je crois, c'est un extrait de la 8e symphonie de Dvorak. Ici, je vous propose le premier mouvement d'un poème symphonique du même Dvorak. C'est la Colombe sauvage, l'opus 110 du compositeur, et Václav Neumann donc qui dirige le Philharmonique Tchèque en 1984.
Thank you.
La musique de Dvorak ici avec la marche funèbre extrait de sa Colombe sauvage, poème symphonique, donc l'opus 110 du compositeur, enregistré en 1984 dans le cadre du Festival de Lucerne par Václav Neumann à la tête de l'Orchestre Philharmonique Tchèque, enregistrement d'époque donc, mais parution récente, un disque enregistrement donc qui vient d'être disponible sous le label Audité. On va continuer dans les nouveautés pendant encore un petit moment, deux plages en fait, et c'est Schumann qui va nous occuper, ça pourrait être pire. Il y aura tout d'abord le pianiste Gerhard Opitz et puis ensuite le violoncelliste Kian Zoltani avec la Camerata de Salzbourg.
Thank you.
Mondnacht, un lied de Robert Schumann, extrait de son Liederkreis, donc l'opus 39 du compositeur, une œuvre à l'origine bien entendu pour voix et piano, ici dans une transcription pour violoncelle et orchestre. C'est Kian Zoltani qu'on vient d'écouter avec la Camerata de Salzbourg, extrait de son dernier disque, donc le disque de Kian Zoltani qui vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Et puis avant, c'était déjà Schumann sous les doigts du pianiste allemand Gerhard Hoppitz. On a écouté la troisième Fantasiestücke, l'opus 111, un disque, un très beau disque également, entièrement consacré à Schumann, qui est paru, lui, sous le label Hensler. Nous reprenons le programme musical qui est concocté par Mitsukare avec Mendelssohn et son concerto en mi mineur pour violon. Isabelle Faust est au violon, l'orchestre baroque de Fribourg, en Allemagne, bien sûr, sous la direction de Pablo Heras Casado. Thank you. Un des tout grands concertos pour le violon du 19e siècle, celui de Mendelssohn, ici 3e mouvement avec Isabelle Fauss, l'orchestre baroque de Fribourg sous la direction de Pablo Heras Casado. Et nous avons à 8h40 sur Espace 2 des invitations à vous faire parvenir pour un spectacle E et Extase, c'est les concerts de Romain Mautier. Les concerts de Romain Mautier vous invitent à l'Abbatiale le 1er décembre de cette année à 16h pour Prière, donc une création d'Esco Kikuchi sur un livret de Stéphane Bloch avec différents musiciens. Il y aura Angelo, il y aura Christian de la Fontaine, Michel Jordan, Borbala Souromi, Alma Klotzer et Lauren Diff et également le quatuor ciné nominé. Donc ça se passe donc dans l'abbatiale de Romain Mautier, magnifique cadre évidemment, 1er décembre à 16h. Nous avons des invitations disponibles à l'adresse musicmatin@rts.ch. Thank you. Le final d'une symphonie, final de la troisième symphonie en ut majeur, signée Andreas Jacob Romberg et dirigée ici par Kevin Griffiths. Vous écoutez RTS, espace de ses musiques matin, il est 8h48, une chronique maintenant, une chronique sur la musique à l'écran. C'est Pascal Kneur qui nous parle de péplum, ce genre, ce sous-genre du cinéma qui fait un retour un peu anachronique par le biais de Gladiator 2. Gladiator 2 qui est la suite logique de Gladiator 1, le film de Ridley Scott qui était paru en l'an 2000. Et donc c'est l'occasion de se replonger dans l'histoire des musiques de péplum et plus particulièrement celles qui ont fait vibrer les salles de cinéma dans les années 50 et les années 60.
Gladiator 2, c'est Ridley Scott pour la mise en scène et Harry Gregson Williams pour la musique, sur des thèmes de Hans Zimmer et Lisa Gerhardt. Une suite que Ridley Scott donne à son célèbre Gladiator 24 ans après. À l'époque, son film est un véritable carton, alors qu'il revisite un genre tombé en désuétude depuis longtemps, le péplum. Un péplum, c'est un film qui se déroule au temps de l'Antiquité gréco-romaine et qui exploite des récits, des situations et des personnages historiques, bibliques ou purement fictifs. Le péplum est très populaire à l'époque du cinéma muet, notamment grâce aux efforts du producteur et réalisateur Cécile B. DeMille. Il connaît ensuite un nouvel âge d'or dans les années 50 et 60, sort alors toute une série de films épiques tournés entre les États-Unis et l'Italie. C'est Quo Vadis, Ben Hur, Les Dix Commandements, La Tunique, Spartacus, Cléopâtre. Les codes du péplum sont toujours les mêmes. Des héros et des héroïnes au physique impeccable, de l'action spectaculaire, des décors somptueux et bien souvent des libertés prises avec les faits historiques. La musique du péplum suit elle aussi ses propres règles. Elle est symphonique, épique et lorgne en direction d'un certain orientalisme. Du côté des États-Unis, la palme de spécialiste musical du péplum revient au compositeur Miklós Rocha. D'origine hongroise, Rocha est un des maîtres de la musique de films hollywoodienne qui s'est taillé une réputation grâce à son travail sur des films noirs tels que La Maison du Docteur Edwards d'Alfred Hitchcock et Assurance sur la mort de Billy Wilder. Au début des années 50, il bénéficie d'un contrat confortable avec le studio de la Metro-Goldwyn-Mayer qui lui permet de travailler avec rigueur sur les musiques de films à gros budget. Par exemple, pour les films Quo Vadis et Ben Hur qu'on entend en ce moment, Rocha effectue des recherches approfondies sur les musiques de l'Antiquité, qu'elles soient grecques, romaines ou hébraïques, afin de rendre ses partitions les plus authentiques possibles. Mais comme les sources sont maigres, notamment au sujet de la musique romaine, Rocha doit combler les manques. Il imagine ainsi ce que pouvaient être les fanfares triomphales de la Rome antique, avec un tel succès qu'il devient immédiatement le compositeur incontournable du film historique à grand spectacle et donne le ton pour tous les péplums à venir. Bénure de Miklos Rocha, c'est une musique de film importante pour le péplum, mais aussi pour toute l'histoire du cinéma. Pendant des décennies, elle détient le record de la plus longue bande originale jamais enregistrée pour un film, d'une durée de 2h30. Avec cette partition et bien d'autres, Le Roi des Rois, Sodome et Gomorre, Jules César, Rocha place la barre très haut. D'autres compositeurs lui emboîtent le pas, à tel point que c'est bientôt tout le gratin musical de Hollywood qui se met à composer de la musique de films épiques. Parmi les contributions les plus notables, il y a Les Dix Commandements de Elmer Bernstein, La Tunique de Alfred Newman, Les Gladiateurs de Franz Waxman, La Chute de l'Empire Romain de Dimitri Tiomkine. La recette ne change pas et le symphonique majestueux demeure la formule dominante. Au tournant des années 60, les studios hollywoodiens perdent du terrain et les musiques de films gagnent en modernité. Le jeune compositeur Alex North, connu pour avoir injecté du jazz dans la musique de film avec Un tramway nommé Désir, est appelé sur deux péplums qui vont faire date, chacun à sa façon. Le premier, c'est Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, réputé pour son échec colossal au box-office. Le second, c'est Spartacus, réalisé par un certain Stanley Kubrick. Et son thème d'amour, composé par Alex North, est encore à ce jour l'un des plus célèbres du 7e art. À la fin des années 60, le péplum est sur le déclin et ne remplit plus les salles de cinéma. On continue malgré tout à tourner des films dans les décors de studios italiens avec plus de ratages que de réussites. Il faut attendre le début des années 2000 pour que le genre revienne sur le devant de la scène grâce au succès inattendu de Gladiator qui donne un coup de jeune au péplum. Un succès auquel le cinéaste Ridley Scott donne aujourd'hui une suite. À la manœuvre musicale sur ce Gladiator 2, il y a le compositeur Harry Gregson-Williams. Il succède à Hans Zimmer et Lisa Gerhardt, qui avaient créé la musique du premier volet. Ironie du sort, Gregson-Williams a commencé sa carrière comme assistant de Zimmer dans les années 90. Et c'est donc avec la bénédiction de son mentor qu'il travaille sur cette suite. Gregson-Williams ne manque d'ailleurs pas de citer les mélodies du premier Gladiator. Pour le reste, il décline la méthode musicale des blockbusters actuels entre percussions tribales et poussées de fièvre orchestrale qui, avouons-le, n'ont plus grand-chose à voir avec les symphonies raffinées de Miklos Rocha.
Et voilà, merci à Pascal Kner pour cette chronique sur les musiques de péplum. Je vous propose qu'on arrête de se taper le poing sur une poitrine cuirassée. Pour se dire bonjour, on va retourner un peu au calme. Certaines subtilités aussi avec un beau duo, Pat Metheny et Brad Mehldau, Unrequited. Thank you. Unrequited, une composition de Brad Mehldau qu'on écoute ici au piano en duo avec Pat Metheny à la guitare. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous écoutez Espace 2, il est 9h.